C'était le moment pour moi où j'avais atteint ce fameux plafond de verre. Je l'entendais souvent, mais je ne savais pas ce que c'était. Et moi j'ai ressenti ce que c'était. C'est un moment où bah, tu n'apprends plus, où ce n'est plus un environnement, en tout cas, propice à ton développement. Et c'était le moment pour moi où j'avais atteint ce fameux plafond de verre. Je l'entendais souvent, mais je ne savais pas ce que c'était. Et moi j'ai ressenti ce que c'était. C'est un moment où bah, tu n'apprends plus, où ce n'est plus un environnement, en tout cas, propice à ton développement, et intellectuel, et professionnel, et humain. Et à ce moment-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté tout ce confort financier et matériel pour me lancer à mon propre compte, intellectuel et professionnel et humain. Et à ce moment-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté tout ce confort financier et matériel pour me lancer à mon propre compte. C'était le moment pour moi où j'avais atteint ce fameux plafond de verre. Je l'entendais souvent, mais je ne savais pas ce que c'était. Et moi j'ai ressenti ce que c'était. C'est un moment où bah, tu n'apprends plus, où ce n'est plus un environnement, en tout cas, propice à ton développement. Et c'était le moment pour moi où j'avais atteint ce fameux plafond de verre. Je l'entendais souvent, mais je ne savais pas ce que c'était. Et moi j'ai ressenti ce que c'était. C'est un moment où bah, tu n'apprends plus, où ce n'est plus un environnement, en tout cas, propice à ton développement, et intellectuel, et professionnel, et humain. Et à ce moment-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté tout ce confort financier et matériel pour me lancer à mon propre compte, intellectuel et professionnel et humain. Et à ce moment-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté tout ce confort financier et matériel pour me lancer à mon propre compte.
Réinvention.
Se laisser porter par la passion et l'envie et créer une marque de vêtements chic, elle l'a fait, mais pas n'importe comment. Swad a lancé la marque Swag. Elle a décidé de fusionner l'artisanat marocain et le savoir-faire français dans des pièces chic et décontractées, avec des matières upcyclées, bien coupées et pensées pour toutes les morphologies. Dans l'épisode du jour, je suis hyper heureuse de recevoir cette femme pleine de peps, déterminée à faire de sa marque une véritable expérience. Swad a quitté une carrière de cadre en supply chain pour se réinventer et pour impacter. Elle nous partage son parcours, ses doutes, ses montagnes russes émotionnelles et ses fiertés pour être arrivée à faire briller son activité en tant que créatrice de marques de vêtements engagées et portée par des valeurs fortes d'éco-responsabilité et d'éthique qui l'animent au quotidien. J'ai vraiment apprécié notre échange qui, je suis sûre, va vous booster et qui sait, vous donner aussi envie de vous réinventer pour laisser parler votre créativité.
Hello Swad, je suis hyper contente de te recevoir ici. Comment tu vas ?
Bah écoute, ça va très très bien, je suis ravie et je te remercie de m'avoir invitée.
Pour commencer justement les festivités, j'aime bien poser cette question. Tout commence par un rêve. Quel est le tien, Swad ?
Mon rêve, tout de
là,
suite à l'instant
suite.
T ?
Ouais.
J'en ai plusieurs, même ça, c'est compliqué à me canaliser. Mon rêve, c'est vraiment d'évoluer avec des femmes impactantes et on met en place plein de projets partout dans le monde.
Ah bah, il est fabuleux ce rêve, et tu vas nous dire un petit peu justement qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais pour eh bien, le concrétiser peut-être ou t'en rapprocher. Alors dis-nous un petit peu, que fais-tu?
Alors,
ou qui es-tu? Tu te présentes comme tu veux.
Je m'appelle Swad Gargari, je suis styliste, créatrice et fondatrice de Swag Paris. J'aide les femmes à gagner en confiance, en assurance, avec des tailleurs upcyclés, c'est-à-dire que je déniche des matières issues des stocks dormants des grandes maisons de couture et je fusionne les meilleurs savoir-faire de mes deux cultures, la France et le Maroc. J'ai depuis petite dessiné énormément. Le dessin est une passion et c'est quelque chose en fait qui m'a accompagnée jusqu'à ce que, au moment où j'ai atteint un plafond de verre, je pense dans ma carrière professionnelle, je me suis remise à fond au dessin et j'ai retracé un peu, j'ai refait connaissance avec moi-même. Tu vois, donc je me découvre encore de jour en jour, pour te dire la vérité.
Du coup, tu as fait un fabuleux voyage de réinvention. Est-ce que tu peux
C'est
nous
ça.
dire un petit peu bah, quel a été ton parcours du dessin, des prémices du dessin à ta carrière, à aujourd'hui la concrétisation avec la création de la marque Swag Paris?
C'est ça. Ben, en fait, le dessin, c'était comme un rêve. Donc voilà, ça faisait partie d'un des rêves. C'était un petit nuage. Et je me suis consacrée à fond dans les études, voilà, avec ce conditionnement cartésien qu'on a, surtout dans les années 80, 90, où il faut avoir des diplômes pour avoir un bon travail. Et donc, en fait, ces rêves artistiques, on les met en stand-by. Et je me suis concentrée donc dans les études, dans la carrière professionnelle. J'étais, on va dire, un formidable petit soldat. jusqu'à, c'est vrai qu'à un moment, je pense que j'étais arrivée à un âge, donc à mes 40 ans, et puis à un moment de ma carrière où j'avais envie de me réinventer. Et c'est là où j'ai ressorti bah, tous mes carnets de dessin, toutes mes silhouettes, parce qu'il faut savoir que j'ai trois filles, trois enfants, et à chacune de mes grossesses, je m'accordais en fait un temps de dessin. Donc je dessinais énormément de silhouettes de femmes, toujours des vêtements, toujours habitées par l'artisanat marocain. Parce que ça a baigné mon enfance. Tous les étés, je partais avec mes parents voir la famille au Maroc. Et à chacune de mes grossesses, je dessinais. Et dès qu'il fallait reprendre le travail, je rangeais ça dans ma bibliothèque. Et puis un jour, j'ai ressorti tous mes croquis et je me suis inscrite à une formation de styliste. Et je me suis confrontée à des professionnels hein, pour, bah, en fait, bah, pour me rechercher, toujours dans ma recherche intérieure et savoir si c'était un hobby ou vraiment. Une aspiration qui allait devenir une profession. Et bah, au premier cours, au premier défilé, à tous les premiers, j'ai eu une explosion, une chaleur intense au niveau intérieur. Je ne pourrais pas te l'expliquer. Il y avait une excitation, une palpitation, et je me ressentais revivre. Et c'est là où je me suis dit, non, faut que je m'écoute, faut que j'écoute mon corps et je continue à créer.
C'est magnifique ce que tu nous partages avec bah, ce fait que tu t'es un petit peu en évasion avec tes dessins lors de ces moments cocooning de grossesse et de congé mat. Et à un moment, tu t'es dit, OK, je vais essayer de voir si cette hobby, cette passion, je peux la transformer en quelque chose de concret. On parle souvent de déclic. J'ai l'impression que pour toi, ça n'a pas forcément été un déclic, ça a été un cheminement. Mais est-ce qu'il y a eu quand même un moment déclencheur ou quelque chose qui pourra aussi parler aux femmes qui nous écoutent, qui rêvent peut-être de réinvention, qui sont dans des jobs en manque de sens ou qui sont sur des activités qui leur plaisent pas forcément? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu s'il y a eu un moment dans ta tête où tu t'es dit, ben là, j'y vais parce que c'est le moment, quoi?
Alors si j'ai eu un déclic quand même, c'est-à-dire, tu vois, en fait, au fur et à mesure, j'apprends donc à me connaître et surtout à décoder, à décrypter un peu ce qu'on ressent, parce qu'on pose pas des mots parfois à ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on peut vivre. Et je pense que je fais partie de ces femmes qui ont toujours été sous contrôle, à toujours tout contrôler. Il fallait que tout soit sous contrôle pour maîtriser la situation. Et si pendant mes grossesses, je m'autorisais justement à dessiner, eh bien, c'était les seuls moments, en tout cas, hein, j'ai constaté de ma vie, où je lâchais prise et je laissais part à ma créativité. Donc, je cohabitais entre cette créativité où je lâchais prise avec ce besoin de toujours tout contrôler au travail. Et le déclic que j'ai eu au travail, c'est que j'avais quand même commencé à faire ma formation de styliste pendant que j'étais salariée. J'ai même créé Swag, j'étais toujours salariée. J'ai fait des concept stores, j'ai exposé au Galeries Lafayette, Haussmann, dans le Marais, j'étais toujours salariée. Et une fois, je pense que là, c'est vraiment un déclic qui a traversé mon cerveau. Je le raconte rarement, en tout cas très peu de personnes, mais là, je vais vous le confier. C'est que je travaillais dans une entreprise qui fabriquait des machines industrielles. Laser. J'avais implémenté un outil de gestion de production depuis de A à Z et donc il y avait un an de travail dessus. Et au moment où justement on le présentait à toute l'équipe et puis que pour pouvoir justement faire cette adaptation-là, j'ai mon boss direct qui m'a dit, écoute, soit ne t'embête pas à aller dans le site hein, pour participer à cette réunion, tu as autre chose à faire. Et puis, moi, je lui ai expliqué, bah, non, justement, c'est moi qui ai mis en place l'outil de gestion de production, donc qui est la meilleure personne que moi. Et puis il était très embêté, puis au bout de 10 minutes, il me dit, écoute, voilà, il y a telle personne qui a dit, si tu viens, tu vas polluer le débat. Et en fait, ça a fait quelque chose dans mon cerveau. C'est-à-dire que je me suis parlé à moi-même, je me suis dit polluer le débat. Et en fait, c'était en lettres capitales dans ma tête. Et je me suis dit, ah non, non, moi, Swad, je suis quelqu'un qui inspire la créativité, qui développe de la créativité. Je ne pollue pas. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, je pense que j'ai plus rien à faire ici, en fait. Et là, ça a switché dans mon cerveau. Et après, c'est à ce moment-là où j'ai demandé une rupture conventionnelle de contrat, où tout s'est super bien déroulé dans une extrême bienveillance, parce que c'est un groupe dans lequel j'ai grandi, j'ai beaucoup appris, j'ai passé 14 ans, j'étais intrapreneur sans m'en rendre compte. Je suis entrée dans cette société, on était 5, et quand je suis partie, on était, je sais plus de 20, 30, je ne sais même plus. Et en fait, ça a été voilà, une aventure magnifique et je pense que c'était le moment pour moi où j'avais atteint ce fameux plafond de verre. Je l'entendais souvent, mais je ne savais pas ce que c'était. Et moi j'ai ressenti ce que c'était. C'est un moment où bah, tu n'apprends plus, où ce n'est plus un environnement, en tout cas, propice à ton développement, et intellectuel, et professionnel, et humain. Et à ce moment-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté tout ce confort financier et matériel pour me lancer à mon propre compte.
C'est hyper parlant ce que tu racontes parce que du coup, tu as été une sidepreneur pendant un moment. Tu disais que tu as
C'est
développé
ça.
ta marque, ton activité sans tout quitter parce qu'il y a beaucoup d'images aujourd'hui sur les réseaux sociaux partout qui prônent l'entrepreneuriat à 100%, le fait de se jeter dans l'aventure sans parachute. Mais quand on est une femme, une mère avec des responsabilités financières, c'est pas forcément la bonne solution. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment tu t'es dit, je fais ça petit à petit, je le fais en side projet, et aussi peut-être comment tu en as parlé à ton employeur précédent, enfin comment tu as abordé le point, parce qu'il y a beaucoup de
Ah ben.
femmes qui ont cette volonté là de faire ça à côté, mais qui se disent est-ce que par la loi je peux le faire, est-ce qu'on a le droit, qui restent dans leur position de je joue petit. Comment tu t'es dit déjà je commence à jouer grand, je fais ce projet à côté, et après l'autre partie on va en parler juste après.
Alors, ce qui est super important, voilà, si tu me permets, en fait, voilà, vraiment de donner, quand je dis des conseils, c'est dans le sens où, moi, en tout cas, comment je me suis prise. C'est que, tu vois, j'ai un côté, voilà, un peu le syndrome de la bonne élève, le syndrome un peu de la miss parfaite, et je suis toujours soucieuse, un peu très empathique, toujours soucieuse à ce que les choses se passent bien. Donc, j'ai toujours été sensible à entretenir de bonnes relations avec mon équipe, avec mes boss. Il y a des choses qui ne me plaisaient pas, voilà, je le digérais, et puis après, je l'exprimais un peu plus tard, ou parfois, je ne l'exprimais pas, à tort ou à raison. Toujours est-il que j'ai toujours entretenu une extrême bonne entente avec mes anciens collègues et mes anciens boss. J'ai toujours fait en sorte d'être dévouée à 1000%. Et lorsque j'ai décidé de me mettre à 100% à mon compte, c'est que je n'étais plus, comme je vous l'ai expliqué, j'avais fait le tour, le détour, le retour, le pourtour, le contour du poste. Et j'atteins ce plafond de verre. Donc, à moi qui me propose quelque chose où je pouvais développer cette fameuse créativité, pourquoi pas, mais je pense que j'étais arrivée à un niveau où il fallait que je m'affirme moi, en tant que, déjà, voilà, comme tu viens de dire, en tant que femme, en tant que mère, j'ai trois filles, je voulais leur montrer que c'est possible de pouvoir créer et développer une activité, et tout n'est pas parfait. L'important, c'est vraiment d'essayer de faire de son mieux, de pas mal interpréter les choses qui nous entourent, et puis d'essayer de toujours avoir des propos qui nous font avancer, en fait. Toujours avoir un mindset positif. Moi, ce que je peux dire, c'est que si on veut quitter un travail, et dans la mesure du possible, bien évidemment, c'est toujours depuis le début une relation professionnelle, ce travail dans la durée. Moi, vraiment, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai été tellement dévouée pendant 14 ans, et c'est ce que je vais expliquer. Je lui ai quand même consacré 14 ans de ma vie où je me suis mise à fond, à fond, à fond pour ce travail. Là, maintenant, c'est le moment de me rendre l'ascenseur et de me laisser, en fait, voler de mes propres ailes. Donc, en fait, ça s'est fait plus. C'était une séparation pour que je puisse, moi, évoluer de mon côté. Et en fait, moi, je leur ai plus exprimé le fait que j'étais là 14 ans pour vous à fond. Maintenant, voilà, c'était super, c'était une magnifique expérience. Maintenant, il faut m'aider, il faut me rendre voilà, l'appareil et me laisser voler de mes propres ailes. Ça s'est fait comme ça.
Ça va parler à beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut revenir aussi au moment où tu le développais à parallèle de ton activité? Comment tu leur as
Oui.
dit que tu étais en train de le développer? Comment tu as rendu ça possible aussi, toi, dans ton organisation, peut-être du temps, dans le temps que tu consacrais au développement en side projet par rapport à ta vie de salarié? Je pense que ça pourra aussi éclairer beaucoup de
Ouais.
personnes.
C'est vrai que quand j'ai commencé ma formation à distance styliste, donc j'ai opté pour une formation à distance, pas pour du présentiel, parce que j'étais à temps plein dans mon poste actuel. Ensuite, j'ai travaillé énormément. Il faut savoir que quand j'avais cette toute double activité, on va dire oui, c'était à peu près 2016, parce que j'ai commencé un peu à 2015, enfin, quand j'étais en congé maternité, mais à ma reprise, au moins pendant 3 ans, j'ai travaillé un peu en parallèle. Et je travaillais énormément tard le soir et le week-end. Donc c'est vrai que c'était compliqué, mais c'était tellement, en fait, pour moi, c'était tellement une passion que je n'avais pas l'impression de travailler. Mais je t'avoue que voilà, il y avait des jours de la semaine où je me couchais à 2 heures, 3 heures du mat. Je ne le recommande pas. J'avais des grosses valises aux yeux. Mais c'est vrai que quand j'étais salariée, je bossais beaucoup en semaine et le week-end. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à ce moment-là, où j'ai décidé de me consacrer à Swag, eh bien, je me suis un peu moins consacrée à ma famille. Alors, j'étais très présente pour ma famille, mais le samedi dimanche, je travaillais à fond sur Swag. Alors qu'avant, je faisais des sorties, enfin, je faisais plein de choses avec mes filles. Mais je m'étais investie depuis qu'elles étaient nées à fond jusqu'à ce que j'ai créé Swag. Là, c'est différent. C'est mon mari qui a pris le relais. Donc, c'est important dans le couple que le conjoint épaule et soit justement le bras droit dans tous les sens du terme. Donc, pareil, lui, il a vu que je m'étais investie à fond, que j'étais ultra dévouée comme maman. Ben là, il a pris le relais, il absorbe plus des tâches d'intendance qu'à de la maison qu'avant. Et de cuisiner, il a appris à cuisiner.
Le rêve de toutes les femmes qui nous écoutent. Et ça soulève aussi la question de, tu vois, on parle souvent équilibre pro-perso, et le fait de séparer la vie professionnelle. Genre, il y a le bureau et il y a bah, du coup les week-ends. En développant ton activité en side project, tu as vraiment fait que, du coup, ta marque Swag soit une partie de ton identité à toi, Swad, en plus avec la proximité des noms entre ta marque et ton prénom. Comment est-ce que tu as vécu ce moment où justement, en fait, cette entreprise, cette marque est devenue partie de toi? Comment tu l'as expliqué aussi à tes enfants? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi investies dans leur activité, qui travaillent beaucoup. Tu nous montres aussi que la valeur travail, elle est très importante et ça se fait pas en un claquement de doigts. En tout cas, comment tu as géré cette phase et cette transition avec ta famille?
Ouais, il y a, c'est vrai qu'il y a quand même deux questions. Enfin, trois, entre la séparation vie perso-vie pro, et puis après la phase de transition, de présentation aux enfants. Déjà, la phase de transition, un peu de présentation aux enfants, ils l'ont vécu, parce que comme je te disais, quand j'étais salariée et que je travaillais la semaine, bah, parfois le matin, parce que moi j'étais plus, quand je faisais mes croquis, mais moi j'étais vraiment très old school, c'est-à-dire que mes dessins, je peignais, c'est-à-dire quand je les coloriais, j'adorais en fait, bon maintenant mes croquis sont noir et blanc parce que c'est, je suis prise par le temps, etc. Mais à mes débuts, je coloriais tous mes croquis, toutes mes silhouettes, et le matin quand elle se levait avant d'aller à l'école, elle découvrait tout le salon, était recouvert de plein de silhouettes avec plein de couleurs parce que je laissais sécher la nuit. Donc bah, elles ont vécu progressivement un peu cette évolution, d'abord par les silhouettes. Et puis après, il faut savoir que ma première collection a été très fortement inspirée par la culture berbère amazigh. Donc j'allais à Meknès, j'allais à Fès, à Azrou et Moyen Atlas du Maroc. Et en fait, je partais une semaine, je revenais. Et donc je m'inspirais de matières ancestrales du Maroc. Elle voyait mes silhouettes. Et elle me voyait, voilà, elle me voyait partir une semaine, voire 2 semaines et tout ça. Je prenais des congés, tout ça. Enfin, elle me voyait revenir avec mes pièces toutes faites. Donc, elle voyait le début, le avant, le après. Et puis après, elle voyait le défilé de mode. Et en fait, elles étaient ultra émerveillées. Elles étaient petites à cette époque. Parce que maintenant, quand je parle, on dirait que je suis une vieille. Mais c'est vrai que maintenant, c'est des ados. Mais quand j'avais commencé, elles avaient 8, 9 ans, 17 ans, tu vois, 16, 17, enfin 15, 17. Et quand elles étaient enfants, bah, elles étaient émerveillées. Parce qu'elles voyaient des dessins, elles voyaient les matières. Et puis après, voyez la pièce finie. Et puis après, voyez les photos avec les mannequins. Puis voyez les mannequins venir à la maison, faire les essais. En fait, ça a été un émerveillement permanent pour mes filles. Donc, elles ont très vite accepté. Après, où ça a été peut-être un peu plus compliqué, c'est quand je me suis mise à mon compte, où là, il y a une partie business, parce que là, c'était le côté créatif, c'est tout beau, tout gentil, c'est limite un peu monde des bisounours. Quand on rentre dans le dur, parcours entrepreneurial, là, c'était autre chose. Parce que même moi, elles ont vu que mon mindset était différent. J'étais un peu plus. Au début, j'avoue, j'étais plus stressée. En fait, je me mettais énormément la pression. Je me suis mise une pression de malade. Et ça, c'était le côté salarié que j'avais. C'est-à-dire vraiment résultat, résultat, résultat tout de suite. Et puis la séparation vie pro, vie perso, c'était compliqué au début parce que tout était mélangé. En fait, j'arrivais à la faire très bien quand j'étais salariée. Dès lors que je me suis mise à mon compte et en plus chez moi, ah bah excuse-moi, putain, c'est le bazar, quoi, total. Faut être honnête, on va pas se mentir. En fait, j'ai perdu mes repères. Je te cache pas que moi, ce qui a été dur, quand tu passes plus de 15 ans dans le salariat et que tu te mets à ton compte, même si tu avais un côté entrepreneurial, même si j'étais intrapreneur, moi, ça m'a, j'ai eu au niveau mental une transition, un besoin d'adaptation. Et je pense que ça m'a pris quand même 2 ans parce que je ne me rendais pas compte, mais je réfléchissais, je pensais toujours comme une salariée. Et c'est pas pareil quand tu es entrepreneur.
Ça, c'est un sujet qu'on va creuser. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce que, enfin, moi, je me reconnais totalement. Big up dédicace à mon mari qui va écouter ce podcast for sure. Le fait que ce soit le bazar entre bah, vie pro, vie perso, mais en fait, tu es chez toi, tu as ton bureau chez toi ou tu n'as même pas de bureau, bref, tu as ta salle de créativité. Et le fait de raisonner comme une salariée, c'est hyper intéressant de dire qu'il y a un changement de mindset. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, justement, enfin, concrets de te dire comment tu raisonnais peut-être au début, et là, si tu as fait un switch de mindset.
En fait, j'ai beaucoup travaillé dans le développement personnel. Je me suis fait coacher déjà la première année. Tu n'identifies pas Tout de suite à l'instant T, ces petits dysfonctionnements, j'ai envie de dire cognitifs, en fait, j'ai pris conscience bien après. C'est-à-dire qu'au début, j'étais encore en mental salarié, c'est-à-dire je me comparais tout le temps, mais quand je dis je me comparais tout le temps à mes anciens collègues hommes, il faut savoir que j'ai évolué dans le secteur industriel laser, totalement masculin. J'ai été très longtemps la seule femme dans l'équipe. Tu vois, c'était en plus, j'avais une équipe de commerciaux, ils sont dans un rythme de travail très intense. Et donc, quand je me suis mise à mon compte, en tout cas, je ne sais pas, je me comparais tout le temps à eux, c'est-à-dire qu'il fallait que je travaille de telle heure à telle heure. Pour moi, être entrepreneur, il faut travailler 12 heures, enfin, fallait travailler, travailler, travailler. Avec acharnement pour réussir. Et il y avait un problème, c'est que je travaillais avec acharnement et j'avais pas les résultats tout de suite. Et j'étais pas habituée parce que quand tu es salarié, tu travailles énormément, tu as ton salaire tous les mois ou tu as des primes, tu as des coms. Voilà, il y a quelque chose qui se fait par rapport au travail que tu as émis. Et là, bah non, rien. Deuxièmement, rien. Et en fait, au bout de 2 ans, il y a un certain épuisement quand même qui s'installe. Et je pense que il faut complètement switcher. Il y a le salariat où tous les mois, tu vas avoir ton salaire avec des horaires spécifiques, avec une réglementation spécifique. Enfin, tout est réglementé, tout est sécurisé. Tu as ta mutuelle, tu as tes tickets resto pour certains. Enfin, moi, avant, j'avais le véhicule de fonction, j'avais les tickets resto, j'avais la mutuelle. Il y a tout un confort matériel, financier qui est bien calibré, qui est bien ancré. Et tu t'acharnes dans le travail et tu sais, de toute façon, tu auras le fruit de ton travail. Là, tu ne vois pas le fruit de ton travail tout de suite. Alors, OK, les beaux croquis, OK, les belles silhouettes. Mais à un moment donné, c'est pour ça que quand je te dis que tu arrives dans le dur, là, on parle argent, là, lorsqu'on parle pognon, c'est différent. Le monde des bisounours, c'est une chose. Là, à un moment donné, il faut réfléchir à comment faire de l'argent. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment switcher en chef d'entreprise. Qu'est-ce que je mets en œuvre? Quel est le plan d'action? Tous les mois, tous les 3 mois. Et là, il faut mettre d'autres outils en place différents de ceux que lorsque j'étais salarié. Bien que même quand tu es salarié, il y a différents strates, on va dire, de salariat, hein, de ceux qui sont purement opérationnels, ceux qui sont dans la stratégie, tout ça. Il n'empêche que le salaire tombe à chaque fin de mois. Et là, quand tu développes, surtout moi, je crée une marque, je pars de zéro, je construis tout, pas récupérer une marque où j'ai pas racheté, j'ai pas, enfin, on part de zéro. Il faut créer tout un univers, toute une ADN. Il y a une concurrence qui est rude. Il y a beaucoup de marques qui déposent le bilan. Il y a la crise du Covid. Enfin, bon, bref, il y a plein de choses qui font que là, le mindset de l'entrepreneur est différent du salarié.
Est-ce que tu peux nous partager peut-être un ou deux outils que tu as mis en place justement pour t'aider à faire le switch de mindset ou clairement à te dire bon, je fais mon plan d'action comme ci ou comme ça par rapport à quand je suis salarié, ben moi je fais le plan, je fais un petit peu ce que me dit mon boss et peu importe le salaire tombe, alors que quand tu es à ton compte, s'il faut avoir un plan A, un plan B parfois.
Alors, si je peux donner des références bibliographiques qui m'ont vraiment aidé et sur lesquelles je me suis appuyée, c'est déjà quand j'étais salariée et ce qui m'a aidé à faire cette transition de conversion professionnelle, c'était Pouvoir illimité de Tony Robbins, où j'avais travaillé dessus plusieurs étés. Je me rappelle même quand j'étais salariée, c'est-à-dire que je faisais toujours le point de mon plan d'action, de mes projets, de mes rêves, etc. Et cette reconversion professionnelle en faisait partie. Ça revenait tout le temps. Je vais être à mon compte, je veux ça, je veux ça. Jusqu'à j'ai réussi à le mettre en place. Ensuite, une fois entrepreneur, pouvoir limité, il avait plus ses pouvoirs limités, je sais plus ça. Il y avait plus d'impact, ça ne marchait pas. Donc j'avais suivi un coaching qui m'avait aidé à retravailler un peu, je pense, la gestion du temps, parce que j'étais dépassée en fait. En fait, j'étais déstabilisée quand je suis passée du salariat à mon propre compte. J'avais un côté quand même très cartésien, très organisé, très procédural. Et là, d'être entre guillemets livrée à moi-même, sans collègues, sans rien, c'était un peu compliqué. Donc, dans cette phase-là, j'ai fait un coaching de 3 mois sur la gestion du temps, etc. Je me suis inscrite à différents dispositifs régionaux, donc la Chambre de commerce de la Défense. Enfin, j'avais fait deux, trois dispositifs. Des merveilleux souvenirs, en tout cas, c'était avec les entrepreneurs affranchis, où j'ai fait un bootcamp dans le désert sur la posture du dirigeant. Et en fait, ce qui ressortait un peu de ce séminaire, on va dire, d'une semaine, en tout cas, il y a un des coachs qui m'a dit, Swad, toi, ta ligne de conduite, en tout cas, voilà, le conseil que je peux te donner, lâche-toi la grappe. Lâche-toi. En fait, moi, c'est le contraire, c'est que j'ai à lâcher prise, en fait. À me lâcher, oui, la grappe, à être procédurale, c'est très important. Mais intellectuellement, enfin, au niveau cérébral, il fallait que je lâche un peu plus prise. Et là, du coup, en ce moment, j'utilise. Alors, j'ai oublié le titre, mais Tony Robbins, mais en fait, je retiens pas les titres. C'est toujours les mêmes. Ah si, attends, il est pas loin de. Moi, je vais te donner le titre. Et en fait, j'aime bien, je suis en train de revoir voilà, l'éveil de votre puissance intérieure. L'éveil de votre puissance intérieure. Je retravaille tout mon système de valeurs. Et tout mon système de valeurs a changé d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an, d'il y a maintenant. Et en fait, c'est ultra important. Les outils, par exemple, tu me dis, est-ce que tu peux nous conseiller un outil? Bah, c'est de retravailler ses valeurs, et même limite tous les 3 mois. Et lorsqu'on travaille ses valeurs, il ne faut pas les travailler de sorte à ce que tu, enfin, de manière qui représente à ce que tu es déjà, qui reflète déjà ce que tu es. Et moi, j'avais tendance tout le temps à mettre dans mon système de valeurs la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Pour moi, c'est une obsession, en fait, la liberté. Je l'ai constaté. C'est pas pour rien que je me suis mise à mon compte. Bon, et même dans ma marque de vêtements, c'est cette liberté. C'est pas pour rien que Swag Paris va à l'encontre des tendances. C'est cette liberté de choisir sa propre tendance. C'est pas les grandes maisons, les grandes entreprises qui vont nous dire, allez, hop, c'est le violet, tout le monde achète du violet. Tu vois, c'est voilà, c'est ce côté libre. Et là, j'ai retravaillé mon système de valeurs. Et en fait, c'est surtout, c'est pas de travailler ce que tu as déjà. C'est-à-dire que moi, la liberté, en fait, je l'ai déjà. Je travaille dans un. On a la chance de vivre en France, qui est un pays très libre. La femme, elle a beaucoup de droits, elle a la liberté. J'ai cette liberté dans mon couple. Mon mari, il est à fond, il a 3000% derrière moi, il me soutient, j'ai cette liberté d'expression, je rédige des posts LinkedIn sur les sujets que je veux. Enfin, voilà, la liberté, je n'ai pas à me battre pour la liberté, je l'ai déjà. Et c'est là que je me suis dit, bah, bats-toi pour des valeurs pour lesquelles tu dois travailler pour pouvoir accéder à ce que tu veux. Et là, c'est vrai que moi, ce que j'ai remplacé, c'est surtout le courage, l'audace. Alors, il y en a plein qui vont me dire, mais soit tu es déjà courageuse, tu as quitté un boulot pour relancer une entreprise, etc. Mais c'est d'autres zones de courage. C'est-à-dire, c'est vraiment sortir de sa zone de confort sur des, oui, aller vers des zones auxquelles je ne me suis pas aventurée parce que je connais pas ou je sais pas. Ou, tu vois, il y a des, moi, en tout cas, il y a des univers qui m'attirent. Eh ben, j'y vais. Donc, c'est, voilà, moi, le courage, c'est quelque chose, voilà, ça fait partie de mes valeurs. Il faut avoir du courage pour faire les choses, pour faire une action. C'est pas tout de rêver, c'est les rêves, c'est bien. Maintenant, agir et prendre son courage à deux mains, eh ben, c'est ça qui nous fait réaliser ses rêves.
Du coup, ça fait une boucle parfaite entre les premières questions du passage de ta réinvention. Quel est ton rêve? Était d'impacter plus de femmes, de faire que tu puisses aussi contribuer à leurs ambitions en les habillant certainement, mais avec peut-être cette partie mindset, etc. Et ben là, les valeurs justement et le passage à l'action. Tu nous expliques aussi que l'audace et le courage est un petit peu le champ de valeurs sur lequel tu te projettes. Est-ce que aujourd'hui, tu te considères comme une femme ambitieuse?
Et oui, il faut être très ambitieuse. Il faut être ambitieuse. Et ce n'est pas un gros mot. Avant, quand j'avais la vingtaine, j'étais ambitieuse. Parce que quand j'étais enfant, je me voyais, moi, enfin, j'avais une image de moi plus tard, femme d'affaires. Je ne sais pas, je me voyais tout en tailleur. Comme quoi, ce n'est pas pour rien que je suis revenue au tailleur. Ultra élégante, avec voilà, un petit sac. Je m'imaginais comme étant une femme impactante. Et quand je cherchais du travail ou quand je négociais soit mon salaire ou je négociais des évolutions au sein de l'entreprise, on me faisait sentir t'es ambitieuse, mais ambitieuse de manière péjorative, comme si c'était pas bien, comme si toi, femme, tu prends ce qu'on te donne. Bah non, si mon collègue homme il a ça, pourquoi moi j'ai pas la même chose? Donc non, faut être ambitieuse, faut être ambitieuse. Si tu prends pas les choses, on va pas te les donner. Faut pas attendre qu'on te les donne, faut les prendre. Donc je prends.
Et pour finir sur cette partie réinvention, avant de parler du développement de ta marque qui sera l'épisode numéro 2, est-ce que tu peux nous dire 3 conseils que tu donnerais, ou 4, ou peu importe, mais en tout cas aux femmes qui ont cette fibre artistique, qui ont envie de se réinventer, qui ont ce feu intérieur, mais qui hésitent et parce qu'elles sont dans un confort du salariat, quels conseils tu leur donnerais?
Alors, le conseil que je vais donner, c'est vraiment toujours dans cette quête vraiment positive et optimiste. Il y a le côté artistique, c'est une chose, et il y a le côté business, c'en est une autre. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans le secteur industriel laser, dans la production, ce qui m'a énormément aidé dans la création et développement de ma marque. Le côté créatif, et ça, c'est aussi un conseil que je me donne à moi-même. Parce que je me suis rendu compte dans ces 2 années aussi que je me suis bridée au niveau artistique. Tellement que je me suis mise la pression dans l'entrepreneuriat, que je me suis énormément focalisée sur le business, sur le marketing digital, sur tout ce qu'il fallait faire quand on monte une entreprise et tout ça, que entre guillemets, je me suis un peu oubliée au niveau artistique, c'est que je ne m'autorisais pas à développer ma créativité. Donc, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de continuer à s'inspirer, à voyager dans la mesure du possible. à faire des expos, à sortir, à contempler tout ce qui nous entoure et à s'autoriser à prendre du temps et à regarder en fait. Moi, j'adore regarder, j'adore me sortir, m'asseoir et observer. Et puis, j'ai des croquis partout, moi, dans mes carnets. Donc, voilà, continue à croquer dans tous les sens du terme tant qu'on peut.
Et du coup, réinvention, ça veut dire quoi pour toi?
Réinvention, c'est refaire connaissance avec soi.
Trop
C'est-à-dire
bien.
vraiment apprendre à refaire connaissance avec soi pour inventer des choses, pour se réinventer.
Trop bien. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Swad?
Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, swag.com, sur LinkedIn, voilà, si vous avez des questions en message privé, sur Instagram. Et avec plaisir aussi, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse échanger sur, sur vos besoins en termes de tailleur, moi je suis là pour faire briller les femmes.
Trop bien, bah, merci beaucoup pour cet échange. Ça nous a mis plein
Avec
de lumière
plaisir.
et de paillettes.
Merci beaucoup.
C'en est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode, je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram @happylcfunky ou sur LinkedIn @nathalie_medaglia. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention. It ain't too many niggas that can handle me, but I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch ain't right, I got